Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment choisir le bon matelas? Un texte d'Anne-Christine Schneider, paru dans le magazine Bel Âge. Le choix d'un matelas n'est pas à prendre à la légère. Cet investissement important durera au moins 10 ans et nous servira environ un tiers de chaque jour de notre vie. L'impact de nos nuits sur nos journées et notre santé est si grand qu'il ne faut pas tarder avant de changer de matelas, surtout s'il est inconfortable. Les spécialistes recommandent de le remplacer tous les 10 ans parce qu'il se dégrade au fil du temps, que notre corps se modifie, mais aussi pour des raisons d'hygiène, on sue environ 0,5 litre par nuit. Cependant, la dépense étant conséquente, quelques vérifications sont de mise avant d'arrêter son choix. Je vérifie ma posture. Si on a mal au dos, au lever et que la douleur s'estompe en cours de journée, quelque chose cloche pendant notre sommeil. Toutefois, ce n'est peut-être pas le matelas qui est en cause, mais plutôt notre posture, remarque Jean-François Durand-Lot, physiothérapeute diplômé en ostéopathie. Celle-ci devrait être la plus symétrique et la moins en torsion possible pour éviter que la colonne vertébrale ne subisse un stress mécanique trop important. Mieux vaut éviter de dormir sur le ventre, par exemple. En principe, les disques de notre colonne se réparent pendant qu'on dort et qu'on n'est pas sous l'effet de la gravité, car ils sont hydrophiles et accumulent de l'eau. S'ils subissent une compression à cause de la torsion de la colonne, ils ne pourront pas récupérer leur contenu en eau durant la nuit, avec une sensation de douleur à la clé. Si l'on modifie notre posture et que les maux disparaissent, inutile de remplacer notre matelas. Par contre, si on change de posture et que la douleur demeure, ou que l'on dort comme un loir et qu'on n'a aucun inconfort quand on passe nos nuits ailleurs, notre matelas est sans doute inadéquat. Jean-François Durand-Lot préconise alors de l'inspecter sans drap, pour voir s'il creuse. On vérifie aussi l'alignement de notre colonne. Couché sur le côté, dos nu, on demande à quelqu'un de passer un ruban à mesurer rigide de la tête jusqu'aux plis interfessiers et de prendre une photo. Si le ruban est droit et que la colonne vertébrale fait une scoliose en C, c'est que le matelas est trop mou et ou qu'il creuse. Si la scoliose est en S, le matelas est trop ferme. Je choisis ma sorte. De nos jours, la technologie de fabrication de tous les types de matelas, à ressort, en mousse synthétique ou en latex, a tellement évolué entre le soutien, la respirabilité, les systèmes de gel pour réguler la température et les différents degrés de fermeté offerts par les plateaux d'accueil, que le choix devient vraiment une question de préférence personnelle. Cependant, de manière générale, les gens ont tendance à prendre un lit trop ferme, affirme Lydia Martin, vendeuse chez Dormez-vous, car ils confondent soutien et fermeté. Un matelas doit offrir un bon soutien, mais à être quand même souple pour combler nos cambrures et éviter les points de pression. À ressort. Il compte plus ou moins de ressorts, en général entre 800 et 1200, en fonction du nombre de dormeurs et de leur poids, en sachet ou pas, répartis en différentes zones de confort. Les atouts, abordables, bon soutien lombaire, gamme de fermeté et de confort selon le plateau d'accueil choisi. Les bémols, on ressent davantage des mouvements du partenaire. Lourd, difficile à manipuler. En latex, composé de différentes plaques de latex, matière d'origine végétale, plus ou moins dense, ils ne contiennent pas de produits chimiques de synthèse. Les atouts, aussi moelleux que ferme, s'adaptent à chacun, durables, ne retiennent pas la chaleur. Les bémols, chers, lourds, difficiles à manier. En mousse synthétique, Composé de différentes couches de mousse plus ou moins dense, il en existe plusieurs sortes, dont ceux à mémoire de forme. Les atouts. Diminution des points de pression. On ne ressent presque pas les mouvements du partenaire. Confortable, léger, facile à manipuler. La mémoire de forme ferait en sorte qu'on bouge moins, que le sommeil est plus réparateur. Les bémols. Ceux à mémoire de forme réagissent à la température ambiante et corporelle. Ils peuvent donc être très chauds l'été, sans climatisation, ou si on a des bouffées de chaleur, ou très durs et longs à s'adapter à notre corps si la pièce est froide. Inconfortable si l'on bouge beaucoup. Il faut aimer la sensation de caler dans son lit. Je magasine bien. Les conseils de Lydia Martin pour éviter les déceptions. Écoutez les recommandations du vendeur qui prend en compte votre morphologie, poids, taille, votre position favorite pour dormir, vos préférences, si l'on dort seul ou à deux, etc. Mentionnez toute inquiétude ou problème de santé. Essayez le matelas en magasin pendant 5 à 10 minutes dans des vêtements amples et dans différentes positions. Vérifiez que la colonne vertébrale soit bien alignée. Si vous dormez en couple, magasinez avec votre partenaire. Privilégiez deux matelas simples. Avec un bon cadre, ils resteront collés ensemble. Si vos morphologies et vos goûts sont diamétralement opposés. Informez-vous sur la durabilité, les garanties. Vérifiez quel type de sommier répond aux prérequis et les politiques d'échange et de confort. C'est dans la boîte. Les matelas en mousse compactés et livrés directement chez nous dans une boîte fort pratique quand on ne peut se déplacer sont la grosse tendance de l'heure. L'entreprise Casper, chef de file en la matière, a même vu son matelas éponyme désigner l'une des meilleures inventions par le magazine Time. Ces trois modèles différents se veulent universellement confortables. Peu importe notre morphologie, selon Nicole Tapscott, directrice générale de la marque pour le Canada. Ils offrent en plus un soutien ciblé et empêchent d'avoir trop chaud ou trop froid grâce aux matériaux très respirants utilisés. Vous aviez envie de tester cette nouvelle façon d'acheter un matelas, mais vous hésitez? Une période de 100 nuits d'essai permet de le retourner en cas d'insatisfaction. C'était « Comment choisir le bon matelas ?» un texte d'Anne-Christine Schneider paru dans le magazine Bel Âge.
Le phénomène de l'hypnose médicale. Un texte de Harold Gagné, paru le 25 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Un voyage imaginaire contre la douleur et l'anxiété de jeunes patients. Découvrez cette expérience d'hypnose médicale chez une famille. Dans un corridor de l'hôpital de Montréal pour enfants, un adolescent de 16 ans, cheveux en broussailles, l'air détendu et vêtu de la traditionnelle jaquette bleue des centres hospitaliers, rencontre la radiologue qui va procéder dans quelques minutes à sa biopsie. D'une voix douce et rassurante, la docteure Tatiana Cabrera lui explique le déroulement de la procédure. Alexandre Beaulieu sait très bien ce qui l'attend, car depuis sa greffe rénale il y a plus de 14 ans, à la suite d'une maladie génétique, il a subi au moins 20 biopsies pour vérifier si l'organe légué par un donneur décédé continue à bien fonctionner. Quand j'étais petit, je détestais subir une anesthésie générale, car au réveil, je me sentais étourdi et j'avais mal au cœur, explique le jeune homme, originaire de Saguenay. Mais heureusement, tout a changé. Pour la quatrième fois, il a choisi l'hypnose médicale. Maintenant, je n'ai plus besoin de prendre de remèdes calmants avant l'intervention. Je ne souffre pas et je suis beaucoup moins anxieux après, explique Alexandre. Après le départ de la radiologue, une jeune femme au regard brillant s'approche de lui. Il la reconnaît et lui sourit. Vicky Fortin est technologue en imagerie médicale. Son travail consiste à assister le médecin en salle d'opération, mais depuis 4 ans, elle est aussi hypnothérapeute médicale. En marchant avec son jeune patient vers la salle de procédure, elle le fixe dans les yeux en lui posant quelques questions qui peuvent sembler banales. « Ton prénom est bien Alexandre? Tu es ici pour la biopsie? Tes parents t'accompagnent? » L'adolescent se prête au jeu et répond oui systématiquement. C'est une technique qui prépare le cerveau à répondre par l'affirmative pendant l'hypnose. J'utilise aussi sa manière de s'exprimer, ses mots, pour créer une relation de confiance. Il doit ressentir que c'est lui le plus important, dit Vicky, qui ajoute sur un ton qui se veut magique. Aujourd'hui, Alexandre, je t'offre la possibilité de faire un beau et long voyage à l'intérieur de toi. Il répond sans hésiter par l'affirmative. Pendant qu'il s'allonge sur la table d'examen, une autre technologue en imagerie médicale prépare les instruments. La lumière est tamisée, transformant la pièce froide et austère en un endroit qui incite à la détente. Concentrée, Vicky reste complètement au service d'Alexandre, à qui elle parle continuellement. « Où veux-tu aller? » Il répond qu'il veut jouer dans la neige. Elle lui demande alors de fixer un de ses doigts. Ses paupières deviennent lourdes. Il est en transe. Le délai pour s'y rendre varie selon les patients et peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. Pour Alexandre, 5 minutes suffisent pour le transporter hors de lui-même. C'est comme regarder un film sans se rendre compte que les gens en parlent et marchent autour de toi, précise Vicky Fortin. La seule chose qu'elle ne peut faire, selon la loi, c'est de l'hypnose de régression, c'est-à-dire amener le patient dans le passé pour comprendre ses blessures et, éventuellement, guérir. C'est réservé aux psychologues, ajoute-t-elle. De toute façon, ce n'est pas ce qu'elle recherche. En pleine conversation, Alexandre passe par moments d'une hypnose légère à profonde. Assise près de lui et surveillant ses moindres réactions, elle le guide sur une montagne enneigée. Tu as les 2 pieds dans la neige qui tombe du ciel. Tu peux imaginer les flocons, les toucher. Vicky l'entraîne ensuite dans une longue glissade en traîneau pendant que la radiologue s'approche pour procéder à une anesthésie locale sur son ventre. Il ressent légèrement le froid de l'analgésie, mais s'imagine que c'est la neige qui touche sa peau. On doit procéder à une anesthésie partielle, car dans ce cas, l'hypnose ne peut pas faire disparaître complètement la douleur, explique la radiologue Tatiana Cabrera, qui insère son bistouri sous la paroi abdominale pour prélever de petits fragments de tissu qui seront analysés en laboratoire. L'hypnose nous aide dans notre travail. Les enfants sont beaucoup plus détendus, constate-t-elle. La fin d'un rêve. 30 minutes après l'arrivée d'Alexandre dans la salle, tout est terminé. Vicky Fortin lui annonce que le voyage s'achève. Elle fait un décompte. À 7, tu vas sentir le matelas, la couverture. 5, 4, 3, 2, 1, tu ouvres les yeux. Alexandre semble s'extirper d'un léger sommeil. Je n'ai rien ressenti, à part une petite pression sur mon ventre au moment de la biopsie, raconte l'adolescent. L'hypnose médicale, c'est beaucoup mieux que l'anesthésie générale, répète-t-il, satisfait de ne plus avoir d'étourdissement et de nausées. Quand une technologue en imagerie médicale nous a parlé pour la première fois d'hypnose, j'ai trouvé ça étrange, se rappelle Caroline Vincelette, la mère d'Alexandre. On a laissé le choix à notre fils et ça s'est avéré très positif, car il est beaucoup plus calme. Avant la première séance avec Vicky Fortin, l'adolescent était nerveux. On m'a donné un calmant, mais quand on m'a fait l'injection, j'ai ressenti la douleur et je me suis mis à pleurer, confie-t-il. Vicky lui a proposé d'arrêter et de réessayer une autre fois, mais il s'est détendu et tout s'est bien déroulé. En transe, il est alors devenu l'acteur d'un jeu vidéo. Le patient a toujours le choix, explique Vicky, qui a subi seulement un ou deux refus sur les quelques 200 séances réalisées depuis le début en 2019 avec sa collègue Marianne Fortin, également technologue en imagerie médicale et hypnothérapeute. Une première au Québec. Cette année-là, l'hôpital de Montréal pour enfants devient le premier centre hospitalier pédiatrique au Québec à utiliser l'hypnose médicale pour réduire la douleur et l'anxiété chez des patients qui subissent certaines procédures d'imagerie médicale. Tout s'amorce 2 ans plus tôt, en 2017, lorsque l'ex-directeur général de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, Alain Crump, assiste à un congrès à Bordeaux, en France. Une technologue en imagerie médicale, qui est aussi hypnothérapeute dans un hôpital de Lyon, Claire Benoît Ruby, présente une conférence sur les avantages de l'hypnose lors de certaines interventions avec des enfants. J'ai soumis à mon ordre professionnel l'idée d'importer cette façon de faire, raconte Alain Crump, qui suggère à Joanne Lécuyer, la chef technologue de l'hôpital de Montréal pour enfants, qu'il connaît bien, de se rendre en France avec une collègue pour en constater à leur tour les bienfaits. Pendant une semaine, en avril 2018, elle visite le centre hospitalier universitaire de Rouen et l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. C'est là qu'elles assistent à quelques séances d'hypnose médicale, dont le retrait sans douleur d'un pansement sur une adolescente qui a subi une chirurgie pour une scoliose. Elles observent aussi un enfant de 8 ans à qui on extrait une tumeur bénigne de la peau en raison d'une prolifération anormale des vaisseaux sanguins. Nous avons été emballés de constater comment c'était efficace, alors qu'au Québec, on devait faire appel à des anesthésistes dans des situations semblables, se réjouit Joanne Lécuyer. Avec l'accord de la direction de l'hôpital Montréal pour enfants et de radiologues, l'hypnothérapeute française Claire Benoît Ruby est invitée au Québec en janvier 2019 et donne une formation de 2 semaines à 4 technologues. Au Québec, vous êtes à la fine pointe de la technologie et de la recherche, mais je me suis rendu compte que l'hypnose médicale est quelque chose de nouveau pour vous, avoue Claire Benoît Ruby, qui la pratique dans son pays depuis 2008. Vous écoutez Le phénomène de l'hypnose médicale, un texte de Harold Gagné, paru le 25 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. L'origine mondiale de l'hypnose médicale et son arrivée au Québec. Dès l'an 2000, la Haute Autorité de Santé en France recommandait l'hypnose comme traitement non pharmacologique de la douleur. La première formation universitaire démarre 1 an plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le CHU de Rennes commence à l'utiliser en 2007 dans les unités d'hémato-oncologie et les urgences pédiatriques, où l'on constate que 82 % des enfants ont ainsi moins de troubles anxieux. À l'hôpital de Montréal pour enfants, la formation débute par les injections d'intraveineuses, suivies par la pose de cathéters veineux centraux, les biopsies rénales et thyroïdiennes, les ponctions lombaires et les gastrotomies, énumère Joanne Lécuyer. Elle dirigera durant les 9 premiers mois de 2019 un projet pilote démontrant une réduction considérable de l'anxiété et de la douleur chez 101 enfants. D'autres études prouvent que les jeunes, particulièrement ceux âgés de 7 à 14 ans, sont de vrais surdoués de l'hypnose grâce à leur imaginaire. Quelquefois, je fais un lien entre ce que l'enfant a choisi et la salle de procédure qui devient un vaisseau spatial très sophistiqué avec des boutons pour le diriger et une table d'examen qui se transforme en tapis volant, raconte Vicky Fortin. Le cerveau imagine ce qui est agréable et ignore ce qui se passe réellement autour, car le patient est dans une bulle. Les neurosciences ont prouvé que, durant l'hypnose, différentes zones cérébrales ont une activité modifiée. Le phénomène captive le domaine médical depuis longtemps. Dès le 18e siècle, le médecin allemand Franz Anton Mesmer tentait de percer le mystère du phénomène hypnotique. En Inde, au début du 19e siècle, un chirurgien anglais aurait réalisé 345 interventions, dont des amputations et des excisions de tumeurs, en utilisant cette technique. En 1841, en Angleterre, l'ophtalmologue James Braid développe une théorie selon laquelle la concentration sur une pensée peut entraîner un état de sommeil conditionné. L'apparition des anesthésies à l'éther et au chloroforme, en 1846, fait reculer la pratique de l'hypnose. Mais en 1891, un groupe de médecins de la British Medical Association conclut que son utilisation est efficace dans les traitements de la douleur et des troubles du sommeil. Au 20e siècle, une approche moderne de l'hypnose est développée par le psychiatre américain Milton Erickson, qui portera une attention particulière sur la capacité naturelle des enfants à entrer en transe. La docteure Karen Holness, pédiatre aux États-Unis, commencera à enseigner l'hypnose chez les enfants en 1968 et publiera des ouvrages sur le sujet. Elle est aujourd'hui considérée comme la mère de l'hypnose pédiatrique. Cette pratique non conventionnelle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Au Québec, le ministère de la Santé ne détient pas de détails sur l'étendue de son recours, mais la technique est permise pour la gestion de la douleur. Une pratique fréquente. À l'unité d'imagerie médicale de l'hôpital de Montréal pour enfants, jusqu'à 6 patients profitent chaque semaine d'une séance d'hypnose offerte à tour de rôle par 2 technologues. On aimerait embaucher et former davantage de personnel pour que cela profite à l'avenir en imagerie par résonance magnétique où il y a une liste d'attente, car les enfants doivent avoir une anesthésie générale pour rester immobiles, précise Carole Proux, chef technologue à l'hôpital de Montréal pour enfants. Claire-Benoît Ruby réussit à le faire en France, même si les jeunes, dissimulés dans l'appareil d'IRM, ne peuvent pas la voir durant l'examen. J'intègre les bruits violents de la machine dans l'hypnose. Ils peuvent devenir des chevaux au galop, dit celle qui rêve d'une collaboration France-Québec qui permettrait de développer davantage l'hypnose médicale. Personne n'a encore comptabilisé les économies que cela représente. L'hypnose médicale évite des anesthésies générales, la prise de médicaments et quelquefois des intubations. C'est avantageux, car il y a une pénurie d'anesthésistes et d'inhalothérapeutes. Rappelle la docteur Cabrera, qui espère un jour voir des équipes d'hypnose aux urgences où elles pourraient aider à surmonter les crises d'anxiété lors de la pose d'intraveineuse. Cela devrait aussi s'étendre aux patients adultes. L'hypnose médicale, c'est une manière d'être, de sourire, de parler avec calme et bienveillance aux malades. Ajoute Joanne Lécuyer, convaincue que le réseau de la santé en profiterait énormément. L'idée fait lentement son chemin et a commencé à s'étendre à l'unité de rhumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants. L'infirmière, Charlene Hopper, a aussi été formée par Claire Benoît-Ruy en 2020 lors d'une seconde visite interrompue par la pandémie de COVID-19. Environ le tiers des patients, une trentaine au total, ont depuis choisi l'hypnose lors d'infiltrations dans les articulations pour traiter l'arthrite juvénile. Pendant que le médecin introduit l'aiguille dans un genou ou un coude, le patient ne ressent rien, trop occupé pendant une dizaine de minutes à croire qu'il joue au hockey ou participe à un jeu vidéo, explique Charlene Hopper. Sans la sédation, souvent nécessaire auparavant, les jeunes n'ont plus besoin de rester ensuite sous surveillance le temps de se rétablir. Une de ces patientes, Maya Bajaj, 17 ans, ne regrette pas d'avoir choisi l'hypnose à deux reprises. « Chaque fois, j'ai l'impression de méditer. Je me retrouve à notre chalet des Laurentides, survolant les montagnes. Je me sens bien. » Maya entrevoit sa prochaine injection annuelle avec confiance. « Je n'ai plus peur. Je me demande seulement si je retournerai encore une fois au chalet ou si j'irai jouer dans la neige, » dit-elle avec enthousiasme. Qui aurait cru qu'un jour, certaines interventions douloureuses deviendraient presque de véritables jeux pour les enfants et les adolescents grâce à l'hypnose médicale? C'était le phénomène de l'hypnose médicale. Un texte de Harold Gagné, paru le 25 mars 2024, dans Sélection du Reader's Digest.